France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'une équipe de foot qui a brillé dans toute l'Europe, le 11 d'or hongrois. Au début des années 50, l'équipe nationale de Hongrie impressionne avec un jeu tourné vers l'attaque et une tactique révolutionnaire en 4-2-4. Champion olympique en 1952 à Helsinki, les Magic Magyars réalisent un coup d'éclat un an plus tard. Ils battent les Anglais 6-3 à Wembley, autrement dit, dans le saint des saints du foot britannique, une première dans l'histoire. Menés par l'un des plus grands joueurs de l'histoire du foot, l'attaquant Ferenc Puskás, les Hongrois sont les ultra-favoris de la Coupe du Monde, qui se déroule en Suisse au mois de juillet 1954, mais par deux fois, leur route croise l'Allemagne. Une mauvaise rencontre face à une équipe allemande qui use de la brutalité et de la chance d'avoir des chaussures à crampons pour gagner ce mondial aux dépens des artistes hongrois. Dans un pays qui vit sous le joug du pouvoir communiste, la population hongroise se révolte deux ans plus tard, en octobre 56. Les joueurs du 11 d'or en tournée européenne assistent de loin à ce soulèvement maté dans le sang par les chars soviétiques. Mais certains vont en profiter pour fuir à l'ouest. Notre invité aujourd'hui est Sylvain Dufraisse, maître de conférences en histoire du sport à l'Université de Nantes, auteur de l'ouvrage « Une histoire sportive de la guerre froide », publié cette année chez Nouveau Monde Éditions. Affaires sensibles, une émission de France Inter diffusée en direct et aujourd'hui en partenariat avec le journal L'Équipe, récit documentaire Adrien Mora, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter.
Novembre 1953, Paris, gare de l'Est. Un train arrive de Budapest avec à son bord l'équipe de football championne olympique en titre, la Hongrie. Une formation qui impressionne l'Europe entière. Sur le quai de la gare, les dirigeants français de la FSGT, Fédération sportive et gymnique du travail, sont là pour accueillir le 11 d'or hongrois et surtout son entraîneur, Gustav Sebes. Cet ancien ouvrier dans les usines Renault de Boulogne-Billancourt revient en France en tant que sélectionneur national pour son pays, mais également, excusez du peu, vice-ministre des Sports. Il se trouve que la presse communiste d'Europe de l'Ouest adore cette équipe qui fait gagner les idées socialistes. Après avoir écrasé en match amical le modeste club olympique de Boulogne, celui des ouvriers de Renault, les Hongrois prennent la direction de Londres. Et ce voyage, c'est un pèlerinage au pays du foot, l'Angleterre, invaincue chez elle depuis que ce sport existe. Alors, les médias anglais sont tout excités à l'idée de découvrir cette équipe hongroise qu'on dit invincible. Ils demandent au capitaine Ferenc Puskás un petit mot en anglais. Le major galopant, comme on le surnommait, ne pipe pas mot. La légende dit qu'il n'en connaît qu'un seul en anglais, whisky. 25 novembre 1953, Londres, stade de Wembley. 105 000 spectateurs sont massés dans les tribunes pour voir jouer cette curieuse équipe hongroise. Dans l'esprit des supporters, pas de doute, les Anglais ne vont en faire qu'une bouchée, qu'ils soient invincibles ou pas. À l'échauffement, les joueurs auraient dit en voyant Puskás, « Regarde le petit gros, on va les bouffer ». L'arrogance des Anglais face à la concentration des Hongrois. Sur la pelouse, certains joueurs magyars se détendent en enchaînant quelques jongleries avec le ballon. Sur leur maillot rouge, ils arborent leur écusson, une faucille et un épi de blé. Au coup d'envoi, les Anglais sont placés en formation historique et même très classique, le WM. Ces deux lettres représentent le placement des joueurs sur le terrain. Alors que les Hongrois, eux, ont opté pour un système innovant en 4-2-4. Autrement dit, 4 arrières, 2 milieux de terrain et 4 attaquants. Et dès la 6e minute, charmante Elvire cessait de rire, Puskás ouvre le score. Les supporters anglais sont douchés. À vrai dire, ils n'apprécient guère la plaisanterie. Résumé match aux actualités françaises.
100 000 personnes assistent à Wembley au match du siècle Angleterre-Hongrie. Les Hongrois, champions olympiques, jouant en maillot foncé et combinant merveilleusement leurs passes, ils marquent un but dès la première minute par l'avant-centre Idékuti. Les Anglais, médusés, réagissent. Et c'est à la 15e minute, une belle descente de Mortensen, qui glisse à Sewell, qui shoot et qui marque. Un but partout. L'enthousiasme anglais est à son comble, mais il sera de courte durée.
Dépassés tactiquement et techniquement, les Anglais sombrent complètement devant un public sous le choc. Dans les tribunes, il y a un certain Raymond Coppa, champion de France en titre avec le Stade de Reims et leader 2 ans plus tard d'une équipe de France exceptionnelle. En attendant, le joueur français est sous le charme du match auquel il assiste et qui reste gravé dans sa mémoire.
J'ai vu un match sensationnel, un 6-3, ce n'est pas donné souvent. Alors là, vraiment, on a assisté à un festival. Et là, parmi cette équipe de Hongrie, celui qui m'a fait une très très grosse impression, c'était Ferenc Puskás. Avait une équipe exceptionnelle. Bon, surtout une très très grosse attaque avec quand même des joueurs d'exception. Puskás s'est conduit comme un grand grand patron. Ce jour-là, il faisait ce qu'il voulait. Il est évident que Puskás est devenu mon idole.
Pour tous les observateurs aguerris, joueurs et entraîneurs, ce match révolutionne leur vision du football, notamment sur l'animation offensive, les dézonages et la circulation du ballon. C'est en quelque sorte le passage du foot préhistorique au foot moderne. La première rupture dans l'histoire de ce sport, avant celle des Hollandais de Johan Cruyff dans la première moitié des années 70. En tout cas, la presse qualifie ce match Angleterre-Hongrie de « match du siècle ». Qui d'ailleurs sera détrôné par un autre match du siècle, 14 ans plus tard, la demi-finale Italie-Allemagne de la Coupe du Monde au Mexique en 1970. Mais c'est une autre histoire. En tout cas, quelle technique ces Hongrois ! Et ce Puskás, le but qu'il marque d'une frappe du gauche, après avoir humilié un défenseur anglais d'un crochet somptueux, le but du siècle ! Dans le Times, du lendemain, un journaliste écrit, à propos du défenseur, il est passé devant Puskás comme une voiture de pompier qui se serait trompée d'adresse. Bref, les Anglais ont la gueule de bois. Jamais une équipe continentale ne les avait battus à Wembley. Et quelle défaite ! Une raclée même, 6-3. Alors, dans le camp socialiste, en cette période de guerre froide, les joueurs du 11 d'or sont fêtés comme des héros à leur retour à Budapest. Février 1945, Budapest. La Hongrie est libérée par les soviétiques. Le pays subit la double peine, après l'invasion nazie, le glacis communiste, d'une dictature à l'autre. Dans un quartier populaire de la capitale, le jeune Ferenc Puskás fait le bonheur de son club, le Kispest. À seulement 17 ans, il enchaîne les buts et les passes décisives. Depuis son enfance, il a toujours été surclassé dans les catégories supérieures. Avec un père ancien joueur et entraîneur, il est bien entouré. Là où il y a du jeûne, il y a plaisir et talent, hors norme. Le 20 août 45, la Hongrie dispute son premier match depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. À seulement 18 ans, Puskás est sélectionné contre les Autrichiens. Et premier but pour le jeune gaucher qui participe à la victoire, 5-2. Les Hongrois, fiers de leur équipe nationale, finaliste de la Coupe du Monde 1938, battue par l'Italie, assistent en même temps à la soviétisation du pays. À la tête du Parti communiste hongrois, Matthias Rákosi prend pour exemple Joseph Staline et élimine tous les opposants. En quelques années, il impose la terreur dans toutes les sphères de la société. Au sein du football, les clubs également sont pris en main et celui de Puskás, le Kipest, devient le Honved, l'équipe de l'armée. Le major galopant, oui car Puskás était un militaire au grade de major, raconte la naissance de cette équipe dans le documentaire 11 footballeurs en or, réalisé en 1996 par Jean-Christophe Rozet.
L'équipe d'or s'est constituée définitivement en 49-50, quand le Kispest est devenu le Honved, l'équipe de l'armée, et le MTK, l'équipe de la police. En 49-50, on a démembré le Ferencváros, parce qu'on voulait que notre équipe soit encore plus forte. Budaya, Kosic, Laurent et Cibor sont arrivés au Honved.
Le club du Honved rassemble les meilleurs éléments hongrois. Une sorte d'équipe nationale rassemblée dans un seul club et présidée par le ministre de la Défense en personne, Mihály Farkas. Un seul club peut rivaliser, celui de la police. D'ailleurs, le derby armée-police est toujours très attendu. Les dirigeants de la Ligue ont supprimé la Coupe de Hongrie pour alléger le calendrier, priorité à la sélection nationale. Ah, elle les bichonne, ces joueurs, la dictature hongroise. À chaque victoire, ils obtiennent des grades militaires, mais gare à la désertion. Car pour certains joueurs, il y a bien sûr la tentation d'une aventure dans un club à l'étranger, derrière le rideau de fer. Donc en Europe de l'Ouest, avec salaire plus élevé et vie plus libre. C'est le cas du défenseur Sandor Žuk, empêtré dans une histoire d'adultère, qui tente un passage en Autriche avec sa maîtresse pour allier Turin et intégrer l'équipe du Torino. Mais il se fait pincer à la frontière. En mai 51, il est condamné à mort par une cour martiale. Ferenc Puskás et Josef Bokžík demandent une grâce pour leur ami et coéquipier au ministre de la Finance, Mihály, de la Défense, Mihály Farkas. Réponse de ce dernier, les gars, c'est trop tard, on l'a pendu à l'aube, à 5 heures. Les joueurs hongrois sont prévenus, hors de question de quitter le pays. Et avec les Jeux Olympiques qui arrivent, le ministre de la Défense leur met un peu plus la pression.
Colportez partout ce message. La volonté du peuple hongrois est que la jeunesse du monde ne mesure pas ses aptitudes sur les champs de bataille ou dans les tranchées, mais aux grandes rencontres internationales, sportives et culturelles. En avant, camarades sportifs, vers les nouvelles victoires olympiques.
JO de 1952, Helsinki. Un athlète de légende prend toute la lumière. Son nom, Emil Zátopek. Lors de ces Olympiades, la locomotive tchèque réalise un triplé historique, 5000 mètres, 10 000 mètres et marathon. L'équipe de foot hongroise, elle, déroule avec son football offensif et tellement spectaculaire. Il faut dire aussi que le tournoi olympique est réservé aux amateurs. Beaucoup de grandes sélections sont donc absentes ou ont envoyé des joueurs non professionnels. Mais les pays de l'Est, eux, ont un sacré avantage. Les joueurs considérés comme amateurs sont payés par l'État. Ils peuvent donc se consacrer entièrement au foot. Le 15 juillet, la Hongrie écarte la Roumanie 2-1 en tour préliminaire. 6 jours plus tard, c'est l'Italie qui est battue sèchement 3-0 en huitième de finale. En quart, le 11 d'or écrase la Turquie 7-1, puis la Suède 6-0 en demi-finale. Ce sera la Yougoslavie en finale. 2 août 1952, stade olympique d'Helsinki, 59 000 spectateurs sont massés pour voir cette affiche alléchante. En première mi-temps, Hideki Kuti, dit le grand maître, Kocsis, alias tête d'or, et le major galopant, Puskás, bien sûr, s'active devant le but yougoslave, mais le gardien Vladimir Béhara écœure l'attaque magyare. À la mi-temps, l'entraîneur, Gustav Sebes, leur annonce que le dictateur hongrois vient de téléphoner. Le camarade Rakosi a appelé « Si vous battez ces chiens enragés de Yougoslave, la prime sera doublée. » De retour sur le terrain, le couteau entre les dents, les Hongrois ouvrent le score à la 70e minute grâce à l'inévitable capitaine Puskás, d'une frappe du gauche, évidemment. Puis la flèche, Zoltán Csibor, scelle le sort des Yougoslaves à la 88e minute. Les Hongrois sont champions olympiques, ils sont la fierté de tout un pays, ce sont les magiques magyars. Ferenc Puskás raconte au voyage retour.
À partir de Prague, nous nous arrêtions à chaque station pour que le public puisse nous saluer. Nous avons assisté à des scènes incroyables à la gare Keleti de Budapest. Les rues étaient noires de monde. Plus de 100 000 personnes étaient venues faire la fête avec nous. Nous étions fous de joie. C'était notre première grande victoire et nous étions si jeunes.
Pour tous ces joueurs hongrois, cette victoire est une bouffée d'air. Mais ce n'est pas pour autant que le régime les laisse tranquilles. L'avant-centre de l'équipe, Nandor Hideki Kuti, d'origine noble, est mal vu par le pouvoir communiste. Et ce, malgré ses performances sportives. L'entraîneur, Gustav Sebes, va leur trouver une solution. Comme le raconte Hideki Kuti lui-même dans le documentaire « 11 footballeurs en or ».
Mon père était chevalier sous l'ancien régime. À cause de ça, il a été chassé de son travail. J'étais, moi aussi, membre de cet ordre de chevalerie et plusieurs dirigeants n'appréciaient pas qu'un chevalier de l'ancien régime joue dans l'équipe. Alors Kutsi Sebes a monté un coup en faisant faire ce film sur ma mère qui était directrice de l'usine où elle travaillait tellement bien qu'on ne pouvait pas la renvoyer. Ainsi, moi aussi, je suis resté dans l'équipe.
Én is bent maradtam így a csapatban.
25 novembre 1953, ce jour-là, comme nous l'avons raconté en introduction, les Hongrois signent une victoire éclatante contre l'Angleterre, 6-3 à Wembley. Voici maintenant la revanche. Enfin, c'est ce que pensent les Anglais. Elle se déroule le 23 mai 1954 à Budapest, au stade Népstadion, le stade du peuple. Dans cette enceinte toute neuve, inaugurée un an plus tôt, 90 000 spectateurs sont venus encourager leur équipe nationale. Les places se sont arrachées et se vendent 10 fois plus cher que sur le marché noir. Mais la prime de l'ingéniosité revient à deux jeunes supporters qui, une fois entrés dans le stade avec un pigeon voyageur, ont envoyé leurs billets à des amis restés hors du stade. Une nouvelle fois, l'attaque du 11 d'or balade complètement les défenseurs anglais, dépassés et bloqués dans la rigidité de leur système tactique en WM.
C'est une attaque foudroyante. Tibor reçoit le ballon. Il le passe du pied droit au pied gauche, du pied gauche au pied droit. Coxis est libre, il lui passe. Coxis hésite. Je tire ou non? Quelle question! Sandor Coxis marque, sans pitié.
3-0 à la mi-temps, selon certains observateurs, les Hongrois auraient pu en marquer 15. Score final, 7-1. Nouvelle humiliation pour les Anglais et scène de liesse à Budapest, une nouvelle fois. Prochain objectif, la Coupe du Monde 1954, en Suisse, où les Hongrois débarquent avec l'étiquette d'ultra-favoris. Une statistique parle pour eux, invaincu depuis 4 ans, 28 matchs joués, 24 victoires, 4 matchs nuls, 118 buts marqués pour 26 seulement encaissés. C'est donc en pleine confiance que la Hongrie arrive en Suisse et étrille la Corée du Sud 9-0 pour son premier match à Zurich. Au suivant, le 11 d'or fait face à l'équipe d'Allemagne de l'Ouest, entraînée par Sepp Herberger. Le coach, qui a remporté le premier match contre la Turquie, décide de préserver ses titulaires et aligne une équipe B. Calculateur, l'entraîneur allemand préfère perdre, préserver ses joueurs pour la phase finale. Ce qui n'est pas la philosophie de Gustav Schwebes, le Hongrois, qui lui aligne tous les titulaires de son équipe. La Hongrie écrase les Allemands 8-3, mais perd son capitaine, Puskás, blessé à la cheville après un tacle agressif allemand. Une catastrophe. Va-t-on le revoir dans cette Coupe du Monde 1954 ?
That's all right, Mama, just any way you do, that's all right, that's all right, that's all right, Mama, any way you do. Well, Mama, she done told me, Papa done told me too, son, that gal you fooling with, she ain't no good to you, but that's all right, that's all right.
Aujourd'hui, le destin de Ferenc Puskás.
France Inter, affaires sensibles.
27 juin 1954, Suisse, Stade de Berne. Place au quart de finale de la Coupe du Monde avec une affiche de gala, Brésil-Hongrie. Les Hongrois sont toujours privés de Puskás, victime de l'anti-jeu et de la brutalité allemande lors du deuxième match de la compétition. Les Brésiliens, vice-champions du monde en titre, se frottent au maillard magique dans une ambiance surchauffée, autant sur la pelouse que dans les tribunes. des fautes, des coups, des cartons rouges, une invasion de terrain, ambiance. Le match gagne d'ailleurs le surnom de Bataille de Berne, qui voit une nouvelle fois la Hongrie triompher 4-2. Ensuite, en demi-finale, les Hongrois se débarrassent difficilement de l'Uruguay, double vainqueur de la Coupe du Monde et champion en titre. Le monde entier admire le style de jeu hongrois. Et Antoine Blondin, journaliste à l'Équipe, écrit « Chaque amateur de football possède deux patries, la sienne et la Hongrie. » Alors, direction Berne, pour la finale, où les Hongrois retrouvent les Allemands de Sepp Herberger, qui ont éliminé la Yougoslavie et l'Autriche. La RFA est loin d'être favorite, mais l'entraîneur allemand compte bien livrer une bataille sans merci. L'une de ses causeries à ses troupes est rejouée dans le film « Le miracle de Berne ».
Les gars, pour gagner la finale, il faudra toucher les Hongrois droit au cœur. Mais ce n'est pas Puskás. C'est Hidekuti. Il n'a d'avant-centre que le nom. Il tire les ficelles au milieu. C'est lui qui dirige le jeu. C'est lui qu'il faut neutraliser. Horst, vous vous en chargez. Ne le lâchez pas d'une semelle. Qu'il en fasse des cauchemars. Notre gros avantage, nous connaissons les points forts des Hongrois. Mais eux ne connaissent pas les nôtres, ni notre véritable force. Ils ne savent pas que nous sommes assez forts pour les battre.
Les joueurs hongrois abordent cette finale plutôt fatigués. Parce que contrairement à Sepp Herberger, Gustav Sebes n'a pas fait tourner son effectif. 4 juillet 1954, stade du Wankdorf, Berne. En Allemagne, 50 millions d'auditeurs écoutent le match à la radio. Le journaliste Herbert Zimmermann commence par ces mots. L'Allemagne en finale de la Coupe du Monde de football, c'est une immense sensation. C'est un vrai miracle du football. Ferenc Puskás, lui, est de retour. Mais encore un peu blessé à la cheville, diminué, il veut jouer coûte que coûte, malgré la réprobation et le scepticisme de certains de ses coéquipiers. Mais il fait vite taire les critiques, en s'inscrivant un but dès la 6e minute de jeu. Et 2 minutes plus tard, nouvelle attaque hongroise. Récit dans les actualités françaises.
La défense allemande est submergée, Kohlmeier commet une lourde erreur, Sibor se saisit du ballon et marque. 8e minute, Hongrie 2, Allemagne 0. L'Allemagne va-t-elle être pulvérisée? Ce serait méconnaître la volonté germanique. Les Allemands vont de l'avant. Schäfer centre, Buzanski repousse faiblement la balle et Morlock marque le premier but allemand.
Les Allemands reviennent à 2-1, puis égalisent à 2-2 à la 18e minute. La pluie redouble d'intensité. Le terrain est gorgé d'eau. Mauvaise nouvelle pour les Hongrois et leur jeu technique. Bonne nouvelle pour les Allemands, qui disposent de la nouvelle invention d'une entreprise de chaussures, Adidas en l'occurrence, les crampons. Les crampons vissés sous la chaussure qui leur permettent de se déplacer plus facilement sur la pelouse et de ne pas glisser. Le match est serré. Le gardien allemand, Turek, fait une très bonne deuxième mi-temps et enchaîne les arrêts. Mais à la 84e minute, Helmut Rahn trompe le gardien hongrois d'une frappe du gauche à l'entrée de la surface de réparation, 3-2 pour l'Allemagne. Dans les dernières minutes, les Hongrois poussent mais frappent les poteaux à 2 reprises. Puis Puskás redonne espoir à tout un peuple en inscrivant le but de l'égalisation 3-3. Mais l'arbitre siffle, le but est annulé pour hors-jeu. Au coup de sifflet final, le commentateur radio hongrois Gyorgy Zespesi conclut tristement. Mes chers amis, c'est la fin, la fin. Le journaliste allemand Herbert Zimmermann, lui, exulte.
L'Allemagne est champion du monde de football. Les joueurs manifestent leur joie, tandis que les Hongrois perdent avec sportivité et dignité. Puis l'équipe d'Allemagne va chercher la Coupe mondiale, témoin de son merveilleux succès.
Pour l'Allemagne de l'Ouest, cette victoire inespérée sera rebaptisée le miracle de Berne. À Munich, les Allemands sont accueillis en triomphe par 500 000 personnes. C'est que cette victoire dépasse les simples enjeux du sport. Le football, populaire sur presque toute la planète, est aussi un levier géopolitique. Et cette histoire est un signal fort du retour de l'Allemagne sur le banc des nations, après une période de 9 ans pendant laquelle on l'a regardé d'un œil, disons, méfiant, eu égard à sa période nazie encore fraîche dans les mémoires. Côté hongrois, c'est la cruelle désillusion. Pour le régime, le mythe de l'équipe invincible s'écroule. Et dans les rues de Budapest, les supporters laissent éclater leur colère en se livrant à des scènes d'émeutes. Des vitrines sont brisées, des tramways renversés. Et des rumeurs circulent. Les dirigeants du parti auraient vendu la victoire aux Allemands, on leur aurait offert 50 Mercedes. Et le comble, c'est que les joueurs hongrois rentrent au pays en catimini, comme le déplore le défenseur Jenő Bizonczy dans le documentaire « 11 footballeurs en or ».
Cette équipe aurait mérité mieux que d'être obligée de rentrer en cachette. On peut dire qu'à Budapest, une révolution footsialiste a éclaté. Les gens envahissaient les rues, renversaient les tramways, brisaient les vitrines. On nous a fait descendre du train à Tata pour nous cacher dans un camp d'entraînement. Rákosi, le chef du parti de l'époque, est venu nous rendre visite. On nous a ramenés chez nous un par un, dans des voitures de la police politique. En sport, dans le football, il n'y a pas de bonheur parfait.
Ainsi, ce jour-là, s'écrit la première page d'une histoire du football, dans laquelle, avec un jeu séduisant, peu séduisant mais efficace, les Allemands auront brisé tous les rêves de ceux qui aiment et pratiquent le beau football. Les Hollandais de Cruyff, l'équipe de France de Platini ou celle des Verts de Saint-Étienne. Et donc, avant eux, les Hongrois de Puskás. De ce point de vue, ces derniers auront essuyé les plâtres. Voilà pour le foot proprement dit. Mais derrière le rideau de fer, le choc de la défaite passée, place aux sanctions. Il faut trouver des boucs émissaires dans cette dictature socialiste, doublement humiliée par le revers sportif, mais aussi idéologique contre cette Allemagne de l'Ouest. On cible d'abord le gardien, Gulia Grossiske, soupçonné d'espionnage. Le ministre de la Défense, lui, fait savoir qu'il risque la pendaison. Quant au défenseur Julian Laurent, il est accusé de se livrer au marché noir. Au même moment, près d'un an après la mort de Staline, le régime hongrois se durcit et le réformateur Imre Nagy est écarté du pouvoir par les soviétiques. Dans ce contexte, le 11 d'or débute une nouvelle série d'invincibilités. En septembre 1956, le gardien Grosics, écarté de l'équipe suite aux accusations d'espionnage, est rappelé en sélection nationale. Car il y a un match primordial à jouer contre l'URSS. 23 septembre 1956, stade Lénine de Moscou. 105 000 spectateurs sont réunis pour voir les Magyars magiques affronter l'équipe soviétique. Nouveau coup d'éclat pour le 11 d'or, qui bat l'URSS 1-0 chez elle, grâce à un but de Chibor. Un mois plus tard, le 23 octobre 1956, c'est l'insurrection dans les rues de Budapest. L'équipe d'Honved, équipe de l'armée où jouent la plupart des joueurs de la sélection hongroise, est en tournée européenne et assiste de loin au soulèvement de son peuple qui se bat contre la dictature. Extrait des actualités françaises.
Aujourd'hui, un deuil, le deuil d'une nation, écrase la conscience du monde. Le drame dont on verra ici quelques images, le drame d'une Hongrie qui s'est forcée de se débarrasser de ses liens, s'achève dans le sang de son peuple. Les chars russes l'ont réduite au silence.
Le 4 novembre 1956, les chars soviétiques entrent en Hongrie et écrasent la révolte dans le sang. Face au drame qui se joue loin d'eux, les joueurs du Honved poursuivent leur préparation pour leur match de Coupe d'Europe des clubs, la deuxième édition de cette nouvelle compétition, et en l'occurrence contre Bilbao. Mais beaucoup sont inquiets et essaient de fuir avec leur famille, de l'autre côté, du bon côté, à l'ouest. Après un match aller perdu 3-2 à Bilbao, les Hongrois disputent le match retour à Bruxelles, en exil. Loin de leur public, ils ne parviennent pas à éliminer les Basques et sortent de la compétition dès les huitièmes de finale. Après cette défaite, la fédération leur demande de rentrer. Mais les joueurs désobéissent et jouent des matchs de gala à travers les villes européennes de l'Ouest. Madrid, Barcelone, Paris, Bruxelles, Zurich, Rome, Milan. Finalement, la plupart se résignent. Il faut rentrer au pays. Certains ne sont pas assez talentueux pour décrocher un contrat à l'Ouest. D'autres font le choix de ne pas rentrer. Chibor, le rebelle d'origine cigane, qui déclare « Je suis un homme libre », parvient à signer au FC Barcelone avec Okchips, alias Tête d'Or. Ferenc Puskás, lui, rejoint sa femme dans un camp de réfugiés en Autriche. Sans activité, il sombre dans l'alcool et dans la misère. Il a été suspendu par la FIFA pour 18 mois à la demande de la Fédération hongroise. Il s'exprime devant les journalistes.
Mon plus grand désir, c'est de pouvoir continuer à jouer. Je voudrais jouer les matchs amicaux avec le Winners SC. J'espère que la FIFA m'y autorisera.
En 58, Emil Ostreicher, ancien directeur sportif du Honved, désormais au Real Madrid, vient le voir pour lui proposer un contrat. Le président Santiago Bernabéu veut tenter le coup. Et Puskás a pris plus de 20 kilos. Il est complètement hors de forme. Raymond Coppa, joueur star du Real, explique à l'époque, il a été accueilli avec scepticisme, parfois avec méchanceté. Parce que la classe, il l'a. Ce qui lui manque, c'est la condition physique. Alors donnez-lui du temps, il fera un malheur. La presse est très dure et rebaptise le major galopant Major Bedonnant. Très vite, Puskás perd sa vingtaine de kilos et fait parler son pied gauche. Il gagne un surnom, on aime bien les surnoms dans le foot, un surnom parmi les supporters madrilènes, Canoncito Pum. Mais il manque la finale de Coupe d'Europe 59 à Francfort à cause des Allemands qui ont la rancune tenace et qui ne lui ont pas accordé de visa d'entrée. Pourquoi ? Parce qu'il a déclaré que l'équipe d'Allemagne était dopée lors de la finale de 1954. Ce qui a été prouvé en 2010. Dans une histoire solide, il y a toujours un méchant, un personnage sombre. La Mannschaft, l'équipe d'Allemagne semble cocher toutes les cases. Et on en verra d'autres plus tard. Le gardien allemand Schumacher qui envoie le français Battiston dans le coma en 82. Le match arrangé avec les Autrichiens pour empêcher les Algériens de se qualifier dans cette même Coupe du Monde 82 en Espagne. J'en passe. 18 mai 1960, Glasgow, Hampden Park. Plus de 127 000 spectateurs sont là pour voir la finale de la Coupe d'Europe entre le Real Madrid et l'Eintracht Francfort. Revoilà les Allemands, et c'est l'heure de la vengeance pour Ferenc Puskás, qui partage la ligne d'attaque avec Alfredo Di Stefano au sein du Real. Si l'Argentin, Di Stefano, réalise un triplé, chose exceptionnelle en finale, que dire alors du major galopant qui lui inscrit un quadruplé en moins de 30 minutes, magique. Score final, 7-3. Écoutez le commentaire de fin de match.
Et le coup de sifflet a retenti. Le Real Madrid a encore gagné. Magnifique. Le Real Madrid a gagné pour la cinquième fois d'affilée. Et la foule se lève pour eux. Écoutez.
Puskás et le Real Madrid, c'est l'histoire d'une renaissance. En 1969, à l'âge de 42 ans, il raccroche les crampons et laisse derrière lui des statistiques affolantes. 242 buts en 262 matchs, 3 fois vainqueur de la Coupe d'Europe, 2 fois finaliste, 5 fois champion d'Espagne et 3 fois vice-champion, une Coupe d'Espagne et une Coupe intercontinentale. À titre individuel, c'est aussi bien. 4 fois meilleur buteur du championnat d'Espagne et 2 fois de la Coupe d'Europe. Ne lui manque que le Ballon d'Or, où il termine deuxième en 1960, derrière l'Espagnol du FC Barcelone, Luis Suarez. Mais écoutons ce que répond Raymond Coppa, son coéquipier au Real Madrid, quand un journaliste lui demande qui sont les 3 meilleurs joueurs du monde en 1963.
Les 3 meilleurs, écoutez, j'en ai pas mal, bien sûr, mais enfin, ceux qui me viennent à l'idée de suite, je pense surtout à Puskás. À Puskás, je vous dis, je le donne en premier, ça me semblait un peu bizarre, mais c'est un joueur que j'ai découvert en 54 à la Coupe du Monde. Et vraiment, vraiment, c'est pour moi un des plus grands joueurs que j'ai vu. Il a un gauche vraiment extraordinaire. Et j'ai souvent dit que c'est pas un pied gauche qu'il a, mais une main. Et ensuite, en deuxième, je peux vous dire, bien sûr, Pelé. Pelé, c'est vraiment un être extraordinaire, vraiment un être exceptionnel. Inutile que je vous décrive exactement Pelé, tout le monde le connaît. Et bien sûr, Di Stefano, l'homme qui a fait le Real.
6 juin 1981, Budapest, 100 000 spectateurs sont venus voir une affiche mythique, Hongrie-Angleterre. Pour l'occasion, le 11 d'or a été reconstitué pour un match de levée de rideau. Puskás est de retour au pays pour la première fois depuis 25 ans. Il revient auréolé de gloire, alors que son ancien coéquipier Coxis, miné par la dépression et l'alcool, s'est suicidé 2 ans plus tôt. Mais Puskás retrouve avec bonheur d'autres joueurs des Magic Magyars, et le temps d'un instant, la magie opère de nouveau. 25 ans plus tard, le 17 novembre 2006, c'est toute la nation qui pleure la perte du capitaine Ferenc Puskás, mort à l'âge de 79 ans. Le mur de Berlin est tombé, l'URSS est effondrée, et dans le film Notre musique, sorti en 2004, Jean-Luc Godard, le cinéaste, déclare « Est-ce que le communisme a existé ?» Oui, pendant 2 fois 45 minutes, à Wembley, lorsque la Hongrie a battu l'Angleterre.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Puskás, histoire, football et politique, nous en parlons avec notre invité Sylvain Dufraisse. Bonjour.
Bonjour.
Maître de conférence en histoire du sport à l'Université de Nantes, vous êtes l'auteur d'un ouvrage passionnant, faut bien le dire, une histoire sportive de la guerre froide, publié en 2023 chez Nouveau Monde Édition. Donc, histoire sportive de la guerre froide. Est-ce qu'on peut dire que, parce que vous connaissez les deux, à la fois la géopolitique, l'histoire et le football, donc ça fait trois d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que Puskás est le meilleur joueur de tous les temps du bloc de l'Est, avec peut-être Lavyachin, le gardien soviétique, et peut-être Blokhin, l'Ukrainien du Dynamo de Kiev dans les années 70?
Ce sont en effet les trois figures importantes en fait du football socialiste, du football de l'Est, avec un élément supplémentaire dans la trajectoire de Ferenc Puskás. C'est vraiment à la fois son rapport à la liberté, son rapport en fait aux aléas politiques de la Hongrie, et c'est ça qui en a fait finalement un mythe plus que Lavyachin ou que Oleg Blokhin. Lavyachin, c'était plutôt l'incarnation du bon héros socialiste soviétique, alors que Puskás, lui, a une trajectoire différente.
Yachine, qu'on nous surnommait l'araignée, je crois. Il y a deux périodes dans la carrière de Puskás, celle en Hongrie et celle en Espagne. Quand il commence sa carrière à la fin des années 40, son club est repris en main par l'armée. Je crois que c'était assez courant dans le bloc de l'Est. On a vu ça à Berlin-Est aussi, il me semble.
Oui, en fait, ça, c'est un élément qui est important à voir en début de guerre froide dans tout le bloc de l'Est. C'est la progressive soviétisation des systèmes sportifs, des démocraties populaires. Alors, ça se traduit, en fait, dans les faits par une centralisation bureaucratique des activités sportives, par un contrôle plus grand de l'état du mouvement sportif, mais aussi, ça se traduit par l'application dans les démocraties populaires du modèle d'organisation des sociétés sportives qui avait été développé en URSS au cours des années 30, c'est-à-dire la fondation de grands clubs corporatifs qui étaient subventionnés soit par des syndicats mais aussi par l'armée ou par le ministère de l'Intérieur. Et le Honved est l'exemple typique en fait d'un club qui avant était le Kispest Football Club, qui a été qui désormais est financé par le ministère de la Défense. Et ça, c'est aussi important pour à noter, puisque ça, c'est quelque chose qui s'est développé en URSS, le fait d'avoir des clubs qui utilisent, par exemple, le service militaire pour dépouiller les autres clubs. Et c'est ce qui se passe, en fait, avec le Honved. Et puis, il y a également ce que vous avez évoqué, le fait que dans ces clubs de l'armée, les meilleurs joueurs disposaient d'un grade d'officier. Et ça, c'est un moyen à la fois de stimulation, mais c'est aussi un moyen de pression, puisque ceux qui finalement refusaient en fait d'être intégrés dans l'armée faisaient leur service militaire comme simples soldats.
Et alors, il y avait aussi en URSS les dynamos, je pense aux dynamos de Kiev, et les Spartak, je pense aux Spartak de Moscou. Ces noms-là disent quelque chose de la structure des clubs et du statut des joueurs?
Oui, alors en fait ici, les Dynamos, c'est le club des services de police et des services secrets. Et on voit en fait qu'il y a une grande fédération des Dynamos, et donc il y a quasiment un Dynamo dans toutes les capitales des républiques socialistes soviétiques. Et le Spartak, lui, c'était le club qui était subventionné par le syndicat du commerce en Union soviétique.
D'accord. Alors, le sport, c'est la guerre sans les fusils, disait George Orwell. Dans le contexte de la guerre froide, les deux victoires de la Hongrie contre l'Angleterre, un pays qui a inventé le foot quand même, sont vécues comme un vrai triomphe dans tout le camp communiste. Est-ce que pour le parti, c'est un moyen de démontrer la puissance réelle ou supposée d'un système politique, le leur en l'occurrence ?
Alors ici, ça se lit plutôt à deux échelles. À la fois à l'échelle du bloc socialiste, en effet, comme Zatopek l'a été en athlétisme, eh bien, l'équipe hongroise de football est un des fers de lance du sport socialiste, à un moment où l'URSS est en train de devenir une puissance sportive. Mais il y a aussi une autre dimension qui est ici une dimension nationale. Pour la Hongrie, qui a fait partie du camp des vaincus, les victoires en football sont un moyen, comme pour la sélection nationale de RFA en 54, de redorer l'honneur de la nation, de redonner du lustre à la nation. Et donc, l'équipe de football, ici, croise à la fois l'histoire nationale et l'histoire du bloc socialiste.
France Inter. Affaires sensibles.
Sylvain Dufresne, dans votre livre, Une histoire sportive de la guerre froide, il y a une photo, en plein milieu, il y a plusieurs photos à l'album, une photo saisissante où l'on voit les Allemands de l'Ouest alignés à côté des Allemands de l'Est. C'était le match RDA-RFA. Là, on est vraiment au cœur du sujet de l'histoire sportive de la guerre froide. Quel est votre regard sur ce match qui s'est joué lors de la Coupe du Monde 1974, organisée en Allemagne de l'Ouest?
Ce match est devenu aussi un mythe, puisqu'il a fait l'objet récemment aussi de d'une bande dessinée de Philippe Collin, qui a été aussi commentée par Fabien Archambault. Donc ça fait partie des matchs qui sont devenus des matchs épiques dans cette histoire de chronique, de cette histoire politique et sportive de la guerre froide, comme en fait le match de waterpolo en 1956 au JO de Melbourne l'a été.
Et pour quelle raison? On va parler de Melbourne en 56. C'était entre la Hongrie et l'URSS. Hein, racontez-nous.
Exactement. Donc ce match, il se déroule quelques semaines après l'insurrection de Budapest que vous avez évoquée. Et ici, en fait, se rejoue finalement le match, mais sur le terrain sportif, entre les Soviétiques et les Hongrois. Il faut savoir en fait que le capitaine de l'équipe de waterpolo avait pris position pour la libéralisation du régime. Et ce match qui a lieu dans une piscine qui est survoltée, en effet, vous avez des émigrés hongrois qui sont dans les tribunes, qui encouragent bruyamment les Hongrois. Eh bien, c'est lors de ce match, un soviétique donne un coup au niveau du visage à un des Hongrois et il se retrouve sur le bord de la piscine avec le visage en sang. Et cette image, en fait, devient une image un peu symbolique de ces oppositions entre les démocraties populaires et les peuples des démocraties populaires et l'URSS. Et le lendemain, elle est reprise dans des grands médias internationaux qui montrent finalement, au travers de cet exemple sportif, la violence et l'oppression des soviétiques. Alors il faut savoir quand même pour la petite histoire qu'une partie des joueurs de l'équipe soviétique se sont ensuite excusés auprès de l'entraîneur hongrois.
Alors, il y a aussi dans les histoires géopolitiques portées par le football pendant la guerre froide, cet épisode entre le Chili et l'URSS en 1973, match de qualification pour la Coupe du Monde 1974. Le match aller se déroule en URSS, il faut donc un match retour. Mais entre-temps, Allende est assassiné, Pinochet prend le pouvoir et les soviétiques refusent d'aller jouer. Et les Chiliens jouent le match retour sans adversaire. Ils sont seuls sur le terrain.
Oui. Et les soviétiques, là, en fait, utilisent les matchs de football comme une tribune, en fait, pour dénoncer le coup d'État. Et ce que ne font pas, par exemple, quelques mois plus tard, la RDA, en fait, qui accepte quand même de jouer.
Alors, puisqu'on parle des Allemands, et on revient à la finale de la Coupe du Monde en 1954 en Suisse entre l'Allemagne et la Hongrie, la victoire de cette Allemagne-là a aussi une dimension géopolitique importante.
Oui, elle incarne, c'est ce qui a été appelé donc le miracle de Berne. Cette victoire, elle incarne le renouveau politique identitaire de la RFA. La Nationalmannschaft, ici, montre la force et le courage des Allemands dans le contexte difficile de l'après-guerre, hein, qui a été mis en image, par exemple, dans le film Allemagne année zéro. Mais il faut aussi bien voir qui était l'entraîneur. Hein. L'entraîneur Sepp Herberger a débuté sa carrière comme sélectionneur national en 1936 et ça a été un loyal serviteur du sport national-socialiste. Donc ce qui est intéressant avec cette équipe, c'est qu'elle est à la fois une incarnation du renouveau de la RFA et des continuités ensuite qui ont pu avoir cours entre le régime nazi et ensuite l'Allemagne fédérale.
Est-ce que la Hongrie était un pays très fort de manière générale à cette époque, dans les années 50 et 60, ou est-ce qu'elle ne brillait que par le football ?
Non, c'est un élément qu'on a tendance à oublier hein, quand on a en tête le récit du sport anglais qui se serait diffusé en Europe par les ports, etc. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça et on a tendance à oublier aussi pour des raisons d'accès aux sources, hein, parce que peu de chercheurs travaillent et connaissent le hongrois, sur le dynamisme en fait du sport en Europe centrale durant les années 20, durant les années 30. Alors, les résultats des Jeux Olympiques parlent d'eux-mêmes. Hein, la Tchécoslovaquie et la Hongrie disposaient déjà d'excellents sportifs dans les années 30. Et ce sont aussi, c'est un espace, hein, l'Europe centrale et orientale, où le football a été très tôt professionnalisé. Et dès le milieu des années 20, en fait, ce sont des fédérations qui ont soutenu le professionnalisme dans le football. Alors d'ailleurs, hein, les talents hongrois se sont exportés très tôt hein, en Italie. Hein, la Juventus de Turin, qui remporte le titre en 1926, dispose d'un entraîneur et d'un attaquant hongrois. En France, hein, le footballeur Simoni, qui a été quatre fois sélectionné chez les Bleus, est aussi naturalisé. Et l'équipe de Hongrie avait atteint la finale de la Coupe du Monde en 1938. Alors, il faut aussi se rappeler qu'il y avait une coupe qui fédérait les équipes d'Europe centrale, c'est la coupe Mitropa, qui a été fondée en 1927, qui a été ensuite arrêtée durant les années de guerre et qui ne reprend en 1955. Mais ça montre en fait ce dynamisme sportif qui avait cours en Europe centrale et orientale et dont finalement la Hongrie et l'équipe hongroise, l'équipe de 11 d'or, est un des résultats.
Alors j'étais très très dur avec l'équipe d'Allemagne dans le récit, mais ce ne sont que des faits. Je précise que depuis le milieu des années 80, l'Allemagne est une équipe normale, qui a même pas mal de talent, puisqu'elle a gagné deux Coupes du Monde, l'une en 1990 contre l'Argentine, et l'autre en 2014 contre l'Argentine également. Donc ça c'est réglé, l'équipe d'Allemagne est une équipe tout à fait normale. Mais la rumeur quand même parle, pour les années 50, d'un match acheté ou vendu aux Allemands par des cadres du régime. Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que les Allemands ont triché ou est-ce qu'ils ont gagné en 54?
Alors, ça, ça fait souvent partie des mythes autour du sport. Alors, pour l'instant, moi, je n'ai pas eu accès aux archives et à la correspondance entre le comité des sports hongrois et le comité et leur équivalent allemand. Donc, je ne peux pas vous indiquer finalement si le match a été acheté contre des Mercedes.
Allez, on va considérer que les Allemands ont gagné. Voilà. Et une histoire sportive de la guerre froide, Sylvain Dufraisse. Merci. Au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Puskás, c'est l'équipe mythique de Hongrie. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, aujourd'hui, il y avait Constance Henry.